RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Allez, venez discuter avec les GG, avec les grandes gueules au 32-16. C'est la deuxième heure qui commence et nous sommes ensemble jusqu'à midi. La deuxième heure des GG, l'action collective contre le trop perçu des péages. Moins d'élèves, est-ce qu'il faut donc avoir moins de profs? On va commencer par l'Assemblée nationale et le retour d'un député dont on était sans nouvelles depuis 2 mois.
Sans nouvelles, oui. Il m'a me caché.
J'en suis très heureux. Il a toute sa place, je vous l'ai dit.
Oui, ça.
C'est Mathilde Panot que vous notez, c'était court. Bref, Mathilde Panot, qui est la présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale, qui s'exprimait à propos du retour de Raphaël Arnaud, le député de Vaucluse.
Oui, il s'était caché pendant 2 mois, Raphaël Arnaud. Rappelons que 2 de ses plus proches collaborateurs sont aujourd'hui en détention provisoire, accusés d'avoir participé au meurtre du jeune militant nationaliste Quentin Derenck. Ce sont des gens de la Jeune Garde, mouvement créé par Raphaël Arnaud, qui était censé d'ailleurs ne plus exister, puisqu'il avait été dissous par le ministre de l'Intérieur. Donc Raphaël Arnaud revient dans une opération de communication orchestrée, bien orchestrée. Donc il y a son retour à l'Assemblée nationale, d'ailleurs très discrètement. Pas de sifflet, pas de huée. Visiblement, la mort de ce jeune homme a été oubliée à l'Assemblée nationale. Même la présidente de l'Assemblée nationale, Madame Yael Braun-Pivet, qui avait demandé la démission de Raphaël Arnaud, n'a pas dit grand-chose, comme si finalement tout avait été oublié. Et puis Raphaël Arnaud, par ailleurs, a donné une interview qu'on pourra juger quand même très complaisante au site Blast, où il se victimise finalement. C'est l'inversion accusatoire, c'est-à-dire que finalement c'est l'extrême droite qui est responsable de tout ça, et lui ne comprend pas que ses amis aient pu participer à ce genre de choses. Il n'y croit pas, et donc il va reprendre son travail de député. Est-ce que vous trouvez ça choquant, indécent ou normal?
32-16 pour le dire au GG, le dire aux grandes gueules. Sandrine, Maître Pégan.
Oh, c'est gentil ça, merci. C'est parce que c'est ma fête. Sincèrement, hier, vous savez que je suis aspirée en ce moment par le procès à Tanor, et quand j'ai reçu la dépêche, je me suis dit, tiens, c'est un poisson d'avril. Comme quoi Raphaël Arnaud avait retrouvé les bancs de l'Assemblée nationale. Je me suis dit un peu poisson d'avril, comme avec Céline Dion où son concert était annulé. D'ailleurs, on aurait bien aimé. Mais finalement, non. Et je trouve ça profondément choquant, sincèrement. Je trouve qu'il y a un vrai problème de conscience politique chez Raphaël Arnaud. On va juste refaire une petite chronologie et on martèle, parce que pour moi, c'est nécessaire. On rappelle qu'il est quand même fiché S. Le S, c'est pour la sûreté de l'État, d'accord? Donc, c'est pour atteinte à la sûreté de l'État. Donc, mine de rien, triplement fiché S ou pas, en tout cas, il est fiché S. Ou par le passé, il l'a été.
Condamné d'ailleurs aussi.
Alors, condamné pour agression,
oui.
Violence en réunion sur un jeune de 18 ans. En avril 2021, c'est les faits ont été commis. Allez, et il a été traduit en justice en février 2022. Alors là, vous voyez, par exemple, par rapport au délai déraisonnable de comparution, là, on peut dire que la justice, finalement, elle est quand même allée assez rapidement. Il a pris 4 mois d'emprisonnement avec sursis et dommages et intérêts. Il serait intéressant de savoir si, finalement, il a payé spontanément les dommages et intérêts à la victime.
Parce il a payé.
Très bien. Est-ce que c'est lui qui les a payés ou est-ce que la victime a dû faire appel à un commissaire de justice?
Non, je
de
crois qu'il a pour aller saisir. Mais,
là, vous allez un peu loin. Est-ce qu'il a pris un crédit pour payer?
Mais si, parce qu'à un moment donné, tu as un devoir d'exemplarité quand t'es élu, quand t'es député.
En tout cas, il est définitivement condamné depuis mars 2025.
Depuis mars 2025, puisque c'est un arrêt qui a été constaté. Donc du coup, il est condamné définitivement. Triplement fiché S ou simplement fiché S. Il a été le fondateur de la Jeune Garde, mouvement dissous en juin 2025, soi-disant, ça serait encore en appel parce que le Conseil d'État ne serait pas encore positionné.
C'est pas suspensif.
Et puis, il y a Quentin Derenck, en février 2026, où il y a quand même... Alors, lui, il n'est pas mis en cause, d'accord, mais il y a 3 de ses... attachés parlementaires, collaborateurs, en tout cas des personnes issues de son entourage politique, qui sont mis en examen. Et je dis mis en examen, je dis pas mis en cause. Parce que mis en cause, par exemple, Alain, moi je dis tiens, tu m'as volé mon téléphone, je te mets en cause. Là, il est mis en examen, ça veut dire qu'ils sont mis en examen, ça veut dire qu'il y a des indices graves ou concordants comme quoi ils seraient plausiblement auteurs des faits pour lesquels ils sont reprochés, pour lesquels ils sont poursuivis. On parle quand même de meurtre, de violence aggravée et d'instigation. Donc c'est quand même quelque chose de très important. Et lui, bien sûr qu'il n'est pas mis en cause, d'accord, mais ça remet en cause sur le fait qu'il y a quand même son entourage dans lequel il évolue, ça pose problème.
Il n'a plus rien à faire sur les bancs de l'Assemblée nationale.
Et en plus, donc là, il nous dit que pendant un mois et demi, il s'est tué parce que monsieur a fait l'objet de menaces. Est-ce que on a une plainte comme quoi il a déposé justement par rapport à ces menaces-là? On ne sait
après,
pas.
Après, il a un mandat. Hein. Il a été élu pour ce mandat. Il est présumé innocent dans oui. l'affaire. Il a rien à voir.
Il a rien à voir. Mais bon, on se dit là, il revient sur les bancs pendant un mois et demi après ce qui s'est passé par rapport à Monsieur Quentin de Ranque. Il s'est tué alors qu'on a une vraie.
C'est Raphaël Arnaud qui a tué Quentin de Ranque.
Non,
Toi, tu dis c'est une question de morale, quoi, d'éthique.
Oui.
Ses idées, peut-être.
Ouais, c'est un vrai problème de conscience politique. Alors oui, il n'est pas mis en cause, mais c'est ce que je disais par rapport au fait que trois de ces personnes de son entourage politique soient mis en examen, c'est un vrai problème.
Compris. Barbara.
Ça pose question.
Barbara et Abel.
Oui, on rajoutera aussi, c'est pas encore à son palmarès, mais parce que c'est pas pour demain la veille, que à l'instar d'autres députés LFI, monsieur Archenot, parce que c'est son pseudo, lui oui. aussi. Hein. Mmh. Parce que c'est tous ces gens-là.
Raphaël Arnaud, c'est pas son vrai nom.
Non, c'est monsieur Archenot. Bah non, parce
qu'un député n'utilise pas son vrai nom.
Tout comme d'ailleurs ses attachés parlementaires qui étaient sous pseudo. Bah non, parce que tu comprends, c'est des gens qui sont en lutte. Sans lutte contre le fascisme.
Mais là, il est député, c'est plus un activiste.
Non. Ah ben si, c'est un activiste, toujours un antifasciste et toujours en action, car vous comprenez bien que comme le fascisme commence à Mathieu Hanotin, maire socialiste de Saint-Denis, ils sont vraiment entourés, donc il faut vraiment même qu'ils travaillent en sous-marin, c'est tellement grave. Donc monsieur Archenot a été notamment, comme d'autres députés LFI, auditionné à maintes reprises depuis 2024, depuis la fin 2023, pour apologie terrorisme. Mais alors, eux, ils ont la chance, à la différence d'autres, comme moi, par exemple, eux ne sont pas poursuivis parce que comme ils sont députés, ils n'ont pas de levée de leur immunité parlementaire. Mais ils en ont des dossiers, des auditions devant des OPJ. Et le parquet, apparemment, lui, par contre, il attend pour eux. Mais ça viendra un jour. Et Monsieur Archenot, comme d'autres, Monsieur Porte et tant d'autres, ils seront aussi traduits devant la justice, comme tout le monde, pour les propos qu'ils tiennent en permanence, qui sont des incitations à la haine, des incitations au crime, apologie de crimes contre l'humanité, terrorisme, etc. Donc tous ces gens-là, c'est exactement ce qu'il a fait sur Blast, charmant média qui nous adore, au GG, la victimisation.
On les embrasse.
C'est-à-dire, on les embrasse, Blast. Coucou, Blast.
Là, c'est une leçon de journée, ce qu'ils ont donné dans cette interview.
Eux, ils sont extraordinaires.
C'est une interview très, très extraordinaire. Très offensive.
Ah, très. Alors vraiment, pas du tout dans la complaisance.
Pas du tout.
Et alors, le mécanisme habituel de la LFI, c'est le retournement des accusations. Le retournement, l'inversion accusatoire. Oui. C'est jamais eux qui insulte, c'est jamais eu les racistes. Alors que monsieur Archenot, c'est un petit-fils de cadre, C'est-à-dire que ses parents, finalement, c'est comme l'a dit monsieur Mélenchon, c'est des bourgeois visqueux. Et puis lui, il est tout blanc, tout moche. Hein? Donc eux, c'est des racistes. C'est des gens qui ont une vision tellement classiste de la société, tellement répugnante de la société. Mais c'est toujours eux les victimes. C'est monsieur Archenot,
il a
victime.
Tout le monde, l'Assemblée.
Ah mais moi il a la place, il représente, c'est très intéressant,
il a sa place.
Il est comme monsieur Delogu, monsieur Porte, madame Soulet.
Il pas démissionné.
Il représente des Français. Moi je suis très contente de voir ce que certains Français veulent mettre à l'Assemblée. Il y a des gens racistes à l'Assemblée, ils sont sur les bancs de la LFI, il y a des gens antisémites à l'Assemblée, ils sont sur les bancs de la LFI. C'est que les Français les ont voulu. On a les représentants qu'on mérite. Alors, qu'il y reste.
Abel Boyi, est-ce que Raphaël Arnaud a sa place sur les bancs de l'Assemblée?
Alors moi je
s'il te plaît,
je vais me faire l'avocat du diable.
Ah ouais.
Parce que c'est un petit peu caricatural. On peut ne pas aimer LFI, on peut ne pas apprécier Raphaël Arnaud, on peut être très critique politiquement. La vague médiatique a aussi beaucoup communiqué comme si c'était Raphaël Arnaud qui avait porté le coup fatal à Quentin. Tout à l'heure, tu soulevais le point que la présidente de l'Assemblée nationale avait demandé qu'il soit, qu'il ne revienne plus, puis elle a changé. Oui, mais qu'est-ce qu'on a découvert entre temps? Moi, je veux bien que Quentin, il soit toujours présenté comme un petit ange catholique. Il a été découvert, je suis désolé, Simone Veil, une salope meurtrière, une catin.
Ça mérite de mourir?
Attends, je finis, je t'ai pas coupé.
Mais moi je te demande juste si ça mérite de mourir.
Mais je vais répondre à ça, je vais répondre parce que je savais que tu allais me relancer sur ça.
C'est encore confirmé lui qui l'a écrit ça.
Mais je vais finir quand même. Moi je soutiens Adolphe, mais chacun son truc, on veut le fascisme, mort totale des nègres. J'ai même appris un terme, il faut déporter les bouègres, donc fusion entre bougnoul et nègre. On ne veut pas vivre avec des Africains, qu'ils soient délinquants ou non. Projet 2027, la chasse aux nègres. Non, ça ne méritait pas la mort. Et moi, je suis contre.
On a eu peur un instant.
Tu as eu peur. Là, tu fais semblant. Tu sais très bien que je suis pas dans ce délire-là. Moi, je suis contre tous les groupes qui soient d'extrême droite. Je suis contre toutes les milices. Je fais confiance à la justice. Néanmoins, je trouve que la manière dont les choses ont été présentées, que LFI et ses délires, oui, mais ceux qui font le salut nazi, ceux qui se tatouent les croix gammées, ceux qui portent
les t-shirts,
ouais, mais ils étaient là à la manif, à la marche pour lui. Si, ils étaient là. Ils ont été filmés par BFM TV.
Non, mais moi, je te parle de Quentin Durand qui est mort. Je te parle pas de deux pouilleux.
Il appartenait à ces mouvances. Je suis désolé.
Et alors, on
donc,
combat
tu
la violence.
Pas le présenter
mais
comme quelqu'un,
moi,
un ange.
Moi, c'est pas mon problème.
Donc, voilà.
Il est mort sous les coups pour de la violence politique.
Mais c'est pas Quentin qui est, pas plutôt, c'est pas Raphaël Arnaud qui l'a tué.
D'accord, mais c'est quand même issu de Raphaël Arnaud.
Je finis. Je vous ai pas coupé la parole. Quand Quentin est mort, Raphaël Arnaud, il a été parmi les premiers à tweeter pour dire qu'il était choqué et horrifié de ce qui s'est passé.
Il a sauvé ses miches.
Et alors pourquoi c'était pendant un mois et demi alors?
Vous pensez que Raphaël Arnaud, il applaudit la mort? Dites-le.
Non, il a sauvé ses miches.
Raphaël Arnaud applaudit la mort de Quentin Durand, oui ou non?
Bien sûr que non, puisqu'il a bien compris son intérêt. Parce que monsieur Mélenchon, il a applaudi la mort de Quentin Durand. Mais pourtant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit la jeune garde, c'est des vrais combattants.
Exactement.
On est avec eux. Donc si tu dis que c'est des vrais combattants, tu justifies la violence politique et le passage à l'acte.
On va au 32-16.
Juste une dernière chose. Monsieur.
Et tous les groupes d'extrême droite, tu en parles jamais.
Mais on n'est pas en train de répondre à la violence par de la violence.
Moi, je vais te poser une question.
Le racisme en France. Attendez.
On ne répond pas à la violence par de la violence.
Quand on vous écoute, le racisme en France et l'antisémitisme n'est que chez LFI maintenant.
Mais c'est pas le problème de l'antifascisme.
Mais non, mais je suis désolé.
C'est la violence le problème. Ce sont des faits.
Je suis contre la violence. Parce que la question, c'est quoi?
Et d'où qu'elle vienne?
C'est le retour de Raphaël Arnaud à l'Assemblée. On a compris. Il y en a partout du racisme.
Et de l'antisémitisme, il y en a partout. Donc
oui, mais en ce moment, si tu veux, si tu demandes.
C'est caricatural.
Est-ce que c'est choquant? On parle de Raphaël Arnaud, c'est pas à l'Assemblée.
Je t'invite à aller aujourd'hui demander à des gens dans des synagogues, à des juifs, qui pour eux aujourd'hui est un danger pour leur vie. Ils vont te répondre.
Parce qu'il
n'y
a pas de juifs qui votent LFI. Il n'y a pas de juifs qui votent LFI en France. Vous êtes en train de manipuler les gens.
À mon avis, très peu. Parce qu'il y a des enquêtes qui ont été faites, alors renseigne-toi.
Il y a 500 juifs de France qui ont peur. Et les juifs qui votent LFI vont à l'abattoir, alors?
Je veux juste te poser une question. En avril 2021, quand Raphaël Archenault a tabassé à terre, d'accord, à plusieurs, un mec, il est pas mort, un gamin d'identitaire de 18 ans.
C'est un garçon violent.
Identitaire de 18 ans, il est pas mort en avril 2021. Il a eu de la chance. Quentin Durand n'a pas eu cette chance. Peut-être que l'identitaire d'avril 2021, c'était aussi un sale con d'extrême droite, peut-être néo-nazi, de ce que tu veux.
Ça mérite même pas de se faire tabasser à mort à un point américain.
On ne répond pas
à mourir.
Et de la même façon, si demain, Raphaël Arnaud était tabassé avec des coups de poing américains, je te dirais que ce n'est pas mérité.
Mais on te parle, je te dis, Abel, on te parle de l'exemplarité.
Raphaël Arnaud, il a viré ses assistants parlementaires.
Mais il a viré, mais il n'avait pas le choix.
Et quand Charles Pasqua, il avait.
Alors, attendez, il les a.
Sandrine, Abel, on arrête. Je voudrais qu'on aille au 32-16. C'est Julien Stop. C'est Julien qui va en parler avec nous aussi.
Anti-LFisme.
Julien, bonjour.
Moi, je défends. C'est animé.
Qu'est-ce que vous en pensez, Julien? Est-ce qu'il a toute sa place à l'Assemblée nationale ou pas?
Moi, je parle du principe qu'il a été élu. Donc, voilà. On a Raphaël Arnaud, le fichier S, à l'extrême gauche. On a Bocalepi, le libraire antisémite, à l'extrême droite, au RN. Le drame, c'est ces gens, ce sont les électeurs qui votent pour ces gens-là.
Voilà. Exactement.
Le drame, c'est des gens qui ont.
Alors peut-être pas en connaissance de cause.
Oui, oui, parce qu'il a été élu en juillet 2024, Raphaël Arnaud. Et à cette époque-là, il est encore présumé innocent.
On verra s'il sera réélu. Peut-être que les gens qui votent, qui ont voté pour lui, ont voté aussi pour l'étiquette. Ne connaissaient pas forcément le parcours de Raphaël Arnaud, je termine, et de la Jeune Garde.
Si, il sera réélu. Pour la Jeune Garde, les défilés antifascistes.
Il sera réélu. Il sera réélu comme les Delogu, comme les Thomas Porte, comme l'Ercilia Soudé.
Alors ça veut dire quoi la société alors?
Ils vendent cette radicalité. C'est ça qui marche.
Donc ça veut dire qu'il y a en France. Il y a en France une appétence
mais bien
chez
sûr,
certains
pour la violence politique,
cette radicalité.
Mais attendez, les Montagnards en 1793, il y a une appétence, il y a un amour de voir le sang couler, de voir l'ennemi, côtés. Mais de tous les côtés, les gens ont envie de cette radicalité. C'est déplorable, c'est catastrophique.
Alors,
et pour moi, c'est d'autant plus catastrophique que du côté de LFI, il y a des gens qui ont des milices et qui sont capables de passer à l'acte, tabasser des gens et les tuer sur un trottoir.
Pointez du doigt la responsabilité. Des électeurs. On va voir du côté de Pierre-Olivier en Corse, cette fois-ci, ce qu'il en pense. Bonjour Pierre-Olivier.
Et bonjour à vous.
Bonjour. Est-ce qu'il a sa place à l'Assemblée nationale ou pas? Dites-moi.
Non, alors je vais vous expliquer mon point de vue. Pourquoi? Parce que déjà, moi, pour moi, c'est la cour des miracles, la politique en ce moment, et depuis bien longtemps. Je suis ancien militaire. Pour être militaire, il faut présenter un casier judiciaire vierge. Pour être policier, il faut présenter un casier judiciaire vierge. Pour être pompier, il faut présenter un casier judiciaire vierge.
Pour être avocat, il faut l'être aussi.
Les représentants
pour être
de
aussi,
l'État,
la carte de presse.
C'est le summum. Pourquoi un député a le droit d'avoir un casier judiciaire alors qu'il est représentant de l'État? Ça, je ne comprends pas. Entre l'autre député qui achète de la drogue dans les quartiers, entre lui qui est fiché S, c'est du n'importe quoi. Et après, comment voulez-vous que ça aille en France? Comment voulez-vous?
Et même Adrien Quatennens, qui est revenu aussi
après les députés. Ils ne sont pas là par l'opération du Saint-Esprit.
Après, il est revenu sur les bancs.
Ça dérange peut-être pas les Français d'avoir des repris de justice dans l'Assemblée. Ça les dérange peut-être pas.
Moi, ça me dérange énormément. Les propos antisémites de l'extrême gauche de LFI, ça me dérange énormément. Pour moi, on doit être irréprochable quand on est au gouvernement. On doit être irréprochable.
Non, Dieu merci, ils ne sont pas au gouvernement. Moi, je suis tout à fait d'accord, Pierre-Olivier. Il y a un vrai devoir d'exemplarité de la part
Exactement.
De nos élus.
Pour les partis.
Et là, oui, en fait, vous l'avez.
Pardon, excusez-moi.
Bien sûr, pourquoi
tout
les partis.
Ne se vaut pas. Je suis désolé. Là, on parle de la mort d'un homme. Après, il y a des malversations.
Oui, mais de toute façon.
Non, mais attends, je termine. Il y a des détournements, des abus de biens sociaux, etc. Mais tout ne se vaut pas, quand même. Toi, tu es bien placé pour le dire. Tous les crimes ne se vaut pas.
Bien sûr.
Ils ne sont pas condamnés de la même façon. Là, on parle quand même. Moi, j'ai pas souvenir sous la 5e République d'un député dont les collaborateurs sont impliqués directement dans la mort d'un homme. Abel Boyi, toi, tu sous-estimes. C'est pas l'étiquette qui compte. Ça serait un RN, machin, c'est la même chose.
Exactement.
Moi, je n'ai pas souvenir.
Je n'ai pas souvenir
qu'un député soit directement par ses collaborateurs impliqué dans un meurtre.
Allez-y,
Pierre-Olivier. Mais on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri qu'ils soient impliqués dans la procédure.
Il faut oublier quand même que la Jeune Garde a été créée par Raphaël Arnaud, qui est député, qui est membre de l'État et qui est fiché S. Donc c'est son groupe et c'est des jeunes de son groupe qui a été dissous. Qui ont tabassé ce pauvre gamin. Ouais, moi je suis d'extrême droite, je vous le dis, moi je m'en fous de le dire, je suis d'extrême droite. Moi je suis choqué parce que il y a eu la dissolution des jeunesses identitaires. Il y a eu tout ce qui est extrême, je suis d'accord. Si c'est pour venir dans la rue pour manifester et tabasser, c'est pas par la violence qu'on va pouvoir se montrer et pouvoir apposer notre voix. La violence n'a jamais rien résolu. On peut le voir là en Iran, la violence ne résout rien. Bref, c'est pas le sujet. Mais je ne comprends pas qu'on ait pu lui donner des cartes, même si oui, il a été élu. Mais il a été élu par qui? C'est pas moi d'extrême droite qui ai voté pour Raphaël Arnaud.
Ah oui, mais c'est la démocratie. Il a été élu par des Français qui savaient très bien à l'époque.
Ah, t'es avancé fait.
Et je rappelle quand même que
les choses ont évolué.
Pendant la campagne électorale de 2024 à Avignon, il était su et archi su qu'il était fiché S et qu'il était en instance de condamnation puisqu'il avait déjà été condamné, il avait fait appel. Tout ça est présumé innocent. Il a utilisé la Jeune Garde à Avignon pour intimider les opposants, les adversaires, etc. Il a reçu l'aide des socialistes et d'autres qui ont appelé à voter pour lui au deuxième tour. Donc voilà, c'est le jeu politique. Il est là. Alors, moi, je trouve qu'au contraire, c'est très bien qu'on la voit, la nouvelle France que veut Monsieur Mélenchon. Ça en dit long. Et si les Français ont envie de continuer, eh ben ils ont envie de continuer.
Alors,
c'est leur pays, c'est merveilleux.
Est-ce que le retour de, merci à Julien, à Marc-Olivier, le retour de Raphaël Arnaud à l'Assemblée nationale, est-ce que ça vous choque, oui ou non?
J'espère.
On va voir, oui ou non. Choquant à 91%. Dans un instant, la grève des profs hier, avant-hier, les profs étaient en grève. 4000 suppressions de postes prévues du côté du gouvernement, du ministère de l'Éducation nationale, dit c'est normal, on va avoir moins d'élèves, donc c'est logique qu'on ait moins de profs. Est-ce que vous le comprenez? Moins d'élèves égale moins de profs. 32-16 pour en discuter avec les GG. Il est 10h20.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
GG les Grandes Gueules avec vous, bien évidemment, cette fois-ci pour discuter avec Barbara Lefebvre, Sandrine Pégan et Abel Bouilly d'une équation. Est-ce que, effectivement, moins d'élèves égale moins de profs? 32-16 pour le dire au GG. En fait, c'est dans la loi de finances 2026, mais il y a 4000 suppressions de postes qui sont prévues du côté du ministère de l'Éducation nationale. On dit, en fait, on anticipe, enfin, on constate et on anticipe, il y a une chute démographique inexorable du nombre d'élèves.
Oui, 4000 sur 850 000, sachant que ce chiffre a été revu à la baisse puisque il y a eu un deal entre Sébastien Delogu et le Parti Socialiste.
Non, Le Cornu.
Qu'est-ce que j'ai dit, Delogu?
Ah, pardon,
c'est un autre. Sébastien Le Cornu.
C'est viscéral.
Sébastien Le Cornu et le Parti Socialiste. C'est vrai que, bien sûr, qu'il y a une baisse de la natalité, il y a moins d'élèves. Par exemple, à la rentrée de 2026, il y aura 100 000 élèves de moins dans le primaire. Ce n'est pas rien. Donc, si on devait suivre l'équation, on devrait supprimer entre 20 et 30 000 postes pour le primaire à la rentrée. Qu'on ne fera pas, puisque les syndicats font pression pour maintenir le niveau actuel du nombre de professeurs, en nous expliquant que c'est bien, on aura moins d'élèves par classe. C'est le grand argument. Moins d'élèves par classe, donc c'est mieux. Donc, ce qui fait qu'on ne peut pas faire d'économie. C'est-à-dire qu'on va arriver à une situation où il y aura quasiment plus d'enfants dans les classes, mais on ne touchera pas au nombre de profs, comme si c'était un sujet tabou. Édouard Geffray a trouvé des comparaisons assez pertinentes, je trouve, le ministre de l'Éducation nationale. Il a dit, nous avons le taux de fécondité de 1916. Okay. C'est-à-dire en pleine Première Guerre mondiale où tous les hommes étaient au front et donc on ne faisait plus d'enfants. Et le nombre d'enfants de 1942, on a le nombre d'enfants de 1942, à l'époque il y avait 28 millions d'habitants aujourd'hui il y a 28 millions d'habitants de plus. Donc on voit bien que c'est une catastrophe démographique, il va falloir s'adapter et donc faire des économies.
Alors justement, parlons-en tout de suite avec une professeure des écoles, Cécilia, elle est dans le Nord, elle est au 32-16. Bonjour Cécilia. Est-ce que Cécilia est là?
Bonjour.
Bonjour Cécilia.
Oui, je suis là.
Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que moins d'élèves égale moins de profs?
En fait, c'est pas le fait que moins d'élèves égale moins de profs, c'est le moins d'élèves et moins de profs. La démographie a bon dos, en fait.
Qu'est-ce qui justifie le maintien, alors, selon vous, Cécilia, en fait?
c'est compliqué. Oui. Ouais, vous nous entendez ou pas?
Non, Cécilia,
oui, je vous entends, j'ai un décalage, je vous regarde.
Il faut pas nous regarder, justement.
Coupez le son de la télé.
Même s'il y a un bel son de la télé.
Et gardez votre téléphone, vous coupez le son de la télé ou prenez votre téléphone.
Allez, illumine le plateau.
Et après, moi, ce qui est principal, c'est que je pense qu'on a perdu le triangle de l'éducation. C'est-à-dire, élèves, parents, enseignants. Il n'y a plus de parents.
C'est-à-dire?
Oui, je comprends pas non plus.
Ben si. En fait, le problème, c'est que les enfants sont différents parce que les parents ne s'occupent plus comme avant
de leurs enfants. Donc c'est pour ça qu'il faut garder les profs auprès des élèves. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce raisonnement ou pas, Barbara?
Ah pardon.
Oui. Parce qu'avec le raisonnement de Cécilia, élèves sont différents, donc il ne faut pas moins de profs, au contraire, il faut autant de profs pour pouvoir accompagner des élèves qui ont complètement changé, parce qu'il y a beaucoup de parents qui ont démissionné.
Les élèves, ils sont différents, mais moi, je suis toujours la même prof depuis 20 ans,
et je peux te dire
que moi, c'est toujours pareil, donc ça file droit, c'est tout. Moi, rien à faire que les élèves, ils changent, que les parents soient très laxistes, qu'ils cautionnent beaucoup, beaucoup, beaucoup des dérives de leurs gosses, et que assez souvent, ils contestent les enseignements. Bah ouais, bah peut-être que ça évolue dans ce sens-là, mais moi, j'évolue pas en revanche. Donc moi, effectivement, tu parlais de la natalité de 1942. Moi, je dois être une prof de 1942. Moi, je suis désolée. Tu peux me mettre 40 gosses dans la classe ou tu peux m'en mettre 20. Pour moi, c'est pareil. Après, je reconnais, il y a des professeurs qui peuvent avoir plus de mal dans ce qu'on appelle la gestion de classe.
40 pour faire, pour apprendre l'anglais.
Mais moi, je suis désolée quand tu as un ou deux élèves qui perturbe la classe et que tu es débordé par un ou deux élèves qui perturbent la classe, je vais le dire un peu brutalement, excusez-moi, hein, mais faut peut-être changer de boulot. Voilà, parce que des élèves qui perturbent la classe, il y en a toujours eu. Les cancres en 1940, il y en avait en 1960, il y en avait en 2026, il y en a. Le problème, c'est la posture d'autorité des enseignants. Et c'est ça le problème, c'est qu'on a cassé la posture d'autorité d'un certain nombre de figures. La figure du policier, la figure du juge, la figure du flic, même le médecin à l'hôpital, on ne respecte plus son autorité.
Est-ce qu'il faut suivre
problème,
cette logique,
société.
Cette logique maintenant, aujourd'hui de moins d'élèves, moins de profs.
Écoute, alors, on va perdre entre 75 000 et 100 000 élèves par an. Sur la période 2023-2027, on a perdu 500 000 élèves. Oui. 500 000 élèves. Dans le collège où je suis, on va fermer des classes l'année prochaine. On va fermer des classes. Et il y a des collègues, qui sont déjà en train de penser à des mutations parce qu'ils savent que dans deux ans, leur poste, ils sautent. Donc, bien sûr qu'il va y avoir des fermetures de classes, y compris en zone urbaine, en région parisienne. On a de moins en moins d'élèves. Et pour nous, en plus, qui sommes dans le public, non seulement on a de moins en moins d'élèves, mais on a la fuite vers le privé. On a la fuite vers le privé. Donc, je peux vous dire que les profs du public, oui, on va être de moins en moins nombreux parce que il y a moins d'enfants et les gens vont vers le privé.
Un
moment donné, il faudra avoir un certain courage.
Il y aura un million d'élèves en moins entre 2019-2029.
Voilà. Mais c'est pas le problème du changement de comportement des élèves. Il faut que les enseignants reprennent une posture d'autorité et qu'ils n'aient pas peur d'être dans l'autorité.
Bien sûr, mais
j'ai pas dit l'autoritarisme.
Les enseignants disent
j'ai dit l'autorité.
Profitons-en au contraire pour mettre des profs avec d'autres profs pour pouvoir faire
On va avoir on va avoir donc des classes où il y aura plus de profs que d'élèves
pour pouvoir faire du soutien.
Mais ça, si tu suis la logique, idiote,
pour pouvoir faire du soutien individuel, faire du complément d'études et autres.
Mais si tu fais cours correctement, t'as pas besoin.
Qu'est-ce que vous en pensez, Abel?
Moi je pense qu'en France on a toujours du mal parce qu'on fonctionne toujours de façon sectaire et sans nuance. Moi, je pense qu'on peut prendre un peu des deux. Par exemple, toujours ce gouvernement Pinocchio, qu'est-ce qui nous sortait, était bien placé pour le savoir, que depuis que Jean-Michel Blanquer était passé à l'éducation nationale, il n'y avait plus de classe au-dessus de 30 élèves en Seine-Saint-Denis, ce qui était un mensonge. Ça a été une communication officielle. Je pense qu'on peut faire un peu des deux. On n'échappera pas au fait qu'il y ait moins de profs, évidemment. Mais je pense aussi que l'on peut réfléchir dans certains territoires, même si l'autorité du prof, malheureusement, elle est battue en brèche et le politique n'a pas aidé aussi à ce que le prof soit valorisé, d'accord ? Tu es la mieux placée pour le savoir. Le métier qui n'est pas valorisé, qui est sous-payé, le prof n'a plus...
Trop féminisé ?
Bon, ça après, je sais pas, ça
se laisse responsable. Ça.
C'est-à-dire, le prof n'a plus cette stature, je dirais, presque sacrée de la personne qui transmet le savoir. Aujourd'hui, le prof, on l'envoie bouler.
Donc, utilisons quelques profs là où on en a besoin. Quoi.
Mais ne soyons pas naïfs en faisant croire que les effectifs d'aujourd'hui, resteront.
D'autant plus que tu parles de la Seine-Saint-Denis, il y a aussi, en zone rurale ou en zone périurbaine, des classes qui sont surchargées.
Oui, bien sûr.
Et la dernière de leurs solutions, c'est la fermeture des classes rurales. Et ça, c'est un grand appauvrissement.
C'est pour ça qu'il faut
de
des deux, en fait.
Parce que si on continue cette logique de métropolisation, ça va être catastrophique. Il faut continuer aussi à préserver les écoles rurales. Mm-hmm. Parce qu'aussi, c'est une façon d'enseigner qui est spécifique. C'est des expériences scolaires et pédagogiques très enrichissantes. Bien plus enrichissantes que ce qu'on connaît dans les classes des métropoles surchargées, avec des élèves de tous horizons qui font n'importe quoi.
Sandrine Pégan, est-ce qu'il faut diminuer le nombre de profs, puisque le nombre d'élèves diminue?
Moi, je trouve que finalement, l'équilibre, il va se faire naturellement. Parce que là, actuellement, comment ça se passe? Il y a des classes qui sont surchargées, on a des profs qui sont épuisés, des postes qui ne sont pas remplacés, et donc finalement, il y a moins d'attractivité pour cette profession. Donc, la démographie, elle baisse, mais les profs, ils n'ont pas envie d'épouser cette profession. Donc, du coup, je me dis que naturellement, ça va s'équilibrer, on n'a pas besoin de réduire le nombre de professeurs parce qu'il va se faire naturellement.
Mais je suis d'accord avec toi, il y a 3500 postes qui sont non pourvus chaque année. Ouais. Mais le problème, c'est qu'ils sont non pourvus en maths, en sciences. Donc, en plus, d'appauvrir la qualité de nos enseignants et de nos élèves, parce que si la France dégrade aussi dans les classements internationaux et notamment en sciences, c'est parce qu'on a un enseignement scientifique qui est de moins en moins performant parce qu'on recourt à des contractuels
qui n'ont pas les capacités,
donc il faut améliorer l'attractivité du poste.
Tu sais très bien, et mes chers grandes gueules, que ces dernières années on pense qu'on pouvait régler le problème de l'éducation nationale uniquement par le nombre, en disant il faut plus, et quand François Hollande est arrivé au pouvoir, il faut embaucher 60 000 profs.
C'est la qualité.
On sait très bien que le problème de l'éducation nationale, c'est pas le nombre, c'est ce qu'on enseigne, c'est la façon dont on l'enseigne, c'est aussi l'exigence, un devoir d'exigence, pardon, qu'on a perdu.
La façon dont on l'enseigne, c'est important.
Le bac n'a plus de valeur, parce que quand tu dis que tout le monde peut l'avoir, forcément, ça n'a plus de valeur. Donc, un diplôme que tout le monde peut avoir perd forcément de sa valeur. Donc, il faut valoriser, soit supprimer de bac ou le rendre plus difficile, arrêter de dire qu'une copie, ce qui compte c'est ce qu'on veut dire et pas la façon dont on le dit, et donc il faut sanctionner les fautes d'orthographe. Enfin, il y a des choses, et ça c'est pas une question d'effectif, c'est une question de bon sens, revenir à des choses un peu plus exigeantes, un peu plus de rigueur.
C'est exactement ce que tu dis quand je dis qu'on a battu en brèche l'autorité de l'enseignant, c'est de ça, je parle pas de l'autorité au sens de la discipline, c'est que le fait que nous soyons dans une position...
C'est ça que les gens veulent mettre leurs enfants dans le privé.
Nous sommes dans une position... enseignant, on est dans une position haute. Et d'ailleurs, notre travail, c'est d'élever l'enfant. C'est un élève. On l'élève vers le savoir. Mais... Or, notre position haute de sachant qui a des capacités et des compétences que certains parents d'élèves n'ont pas, me semble-t-il, elle est remise en question. Et parfois, nos chefs d'établissement sont obligés de céder aux revendications parentales. C'est tout le problème. On a trop fait rentrer les parents dans l'école.
Et peut-être que le salaire aussi, ça serait intéressant de le revaloriser pour
que vous il y a moins de profs, tu peux revaloriser.
Tu peux mieux les payer. Mais c'est aussi,
Une dernière chose, je me mets à la place aussi de certains parents qui sont en train d'écouter et qui disent, mais moi, je comprends pas, mes enfants, là, ils ont pas de prof depuis trois semaines.
Mais
on dit qu'on va en enlever.
C'est la DRH qui déconne.
Non, mais bien sûr. Si tu veux simplement la
perception,
il y a des trous dans les plannings de mes enfants. Genre, on n'arrive pas à trouver un prof
dans le privé,
pour pouvoir faire remplacement.
Ça, c'est dans le privé, on trouve à remplacer.
Donc peut-être qu'ils disent comme Abel, profitons à ce moment-là de mettre des profs où on en manque.
Mais non, c'est pas lié à ça. Là, encore une fois, tu fais une erreur. C'est pas parce qu'il n'y a pas assez de profs, c'est parce que c'est mal géré.
Exactement.
Pourquoi les gens mettent leurs enfants dans le privé? C'est parce que dans le privé, il y a moins d'absentéisme. Donc c'est une question de gestion. Il y a des dizaines de milliers de profs qui sont sans classe en France. On ne sait pas ce qu'ils font d'ailleurs.
C'est l'éducation nationale. Alors, faut-il réduire le nombre de professeurs, moins d'élèves, moins de profs? On réduit ou pas? On va voir ce que vous en pensez de notre discussion d'un quart d'heure là qu'on a pris. C'est très rare, 50-50.
Alors là,
moins d'élèves, on réduit.
Les mêmes qui voudraient qu'on baisse 50-50. La TVA sur l'essence. Oui, mais il faut bien les payer.
Allez, dans un instant, une action collective contre le trop-perçu des péages. Une action collective devant le Conseil d'État pour l'illégalité des hausses des péages des autoroutes. On va en parler avec vous, on va regarder un peu de quoi il s'agit. À tout de suite au 32-16, il est 11h25.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
GG les grandes gueules, avec vous bien sûr. Vous venez prendre la parole avec Sandrine Pégan, maître Sandrine Pégan, dont c'est la fête aujourd'hui. Nous sommes avec Abel Bouilly, l'éducateur. Et comment on dit en manga un terme japonais pour dire vous êtes un sage ou t'es un maître ou un terme japonais ou pas?
Trop maître. Bouilly-san,
on va dire.
Ouais, tu peux dire Bouilly-san, effectivement.
Je suis pas sûr que Abel soit très sage.
Et puis Barbara, la prof d'histoire.
Chez nous, il n'y a même pas de titre. Nous, on est des petits profs.
Madame.
Ah, madame, oui.
Bonjour.
Ah, c'est
Madame
c'est
Lefebvre.
Un titre, hein.
Allez,
madame
11h Lefebvre, moins le quart, parlons des péages des autoroutes.
Madame Lefebvre.
Bouilly-san.
En fait, c'est une action collective qui est lancée devant le Conseil d'État pour contester les hausses des tarifs des péages.
Oui, c'est porté par un cabinet d'avocats. Le nom de code de cette opération, c'est Gargantua. C'est rigolo, pour référence au géant de Rabelais. Alors peut-être parce que effectivement les sociétés d'autoroutes se gavent, engloutissent l'argent des clients des autoroutes. Illégalement, ces avocats en fait pensent que tout ça est très opaque et que il faudrait regarder de près quels sont les tarifs et pourquoi ces tarifs augmentent chaque année. Alors visiblement, du côté des sociétés d'autoroutes, on n'est pas très très inquiète de cette procédure qu'on juge fantaisiste, en expliquant que tout est fait dans les règles et qu'il n'y a pas de problème.
Bah justement, Maître Léguevin qui est avec nous. Bonjour Maître.
Bonjour.
Expliquez-nous ce que vous contestez alors. Pourquoi vous saisissez le Conseil d'État?
Je ne conteste rien, je constate. C'est-à-dire que nous avons une série de rapports, la Cour des comptes, le Sénat, l'Inspection générale des finances, qui vont tous dans le même sens et qui disent qu'il y a de surfacturation. On a même un rapport de l'Inspection des finances qui dit que les prix sont surfacturés à hauteur de 58%. Donc c'est pas rien.
Alors, qu'est-ce que c'est que cette surfacturation, alors, précisément, qu'on comprenne bien?
Ça veut dire que lorsque vous faites un trajet Marseille-Toulouse, par exemple, vous payez 36 euros et vous payez 21 euros de trop. Vous auriez dû payer 15 euros d'après l'inspection générale des finances.
Alors, vous demandez un remboursement donc partiel des tickets?
L'idée, c'est qu'à la fin de la procédure, on sera en mesure de dire aux sociétés d'autoroute, rendez l'argent.
Mais cette surfacturation, elle servirait à quoi alors? Elle couvrirait quoi?
Ah, pour le moment, cette surfacturation, elle sert à payer les dividendes aux actionnaires.
Ah oui.
On a acheté 15 milliards en 2006, et à la fin des concessions, à partir de 2030, ça va rapporter 75 milliards de dividendes aux actionnaires.
Mais quand les sociétés d'autoroute étaient publiques, les tarifs augmentaient, péage augmentait chaque année.
Mais cet argent restait dans les caisses de l'État, donc ils pouvaient en faire ce qu'ils voulaient, par exemple investir pour des nouvelles autoroutes ou...
Là aussi, nos autoroutes sont plutôt bien entretenues, on peut en être fier, il suffit de se balader en Europe, vous allez en Italie ou ailleurs, nos autoroutes sont de bonne qualité, et peut-être parce que c'est justement le privé qui s'en occupe et pas l'État.
Eh bien, les autoroutes ont été construites pendant 50 ans par l'État. Donc, si le réseau de 9000 km est en bon état, c'est d'abord parce qu'il était bien conçu.
Exactement.
Et c'est ça qui est transféré au privé, à vil prix, encore une fois. 15 milliards en 2006.
14,8 milliards en 2006 par monsieur Villepin. Gouvernement de Villepin.
Oui, et qui était le directeur de cabinet de monsieur de Villepin?
Bruno Le Maire.
Bruno Le Maire. Et avant, rappelons-nous, 49% avaient déjà été vendus par qui? Lionel Jospin. Eh oui, car la gauche avait commencé la privatisation des autoroutes. On l'oublie parce qu'on rend hommage à M. Jospin, mais il avait commencé et M. Villepin a terminé. Ça s'appelle l'UMPS.
Moi, confrère, en tout cas, moi...
Là, c'est la politique. Moi, je fais du droit, donc allez-y. Mais...
Oui, mais j'en ai profité pour glisser.
Mais c'est le Conseil d'État qui va trancher?
Oui, c'est le Conseil d'État parce que nous attaquons des décrets et des arrêtés ministériels. La compétence exclusive du Conseil d'État.
Parce que, en préparant le dossier, j'ai vu que Corinne Lepage, à l'époque, ancienne ministre de l'Environnement et avocate, avait imaginé une action collective, c'était en 2015, pour dénoncer, à l'époque également, les tarifs des péages et obtenir un remboursement partiel des tickets. Bon, finalement... son cabinet d'avocat avait arrêté parce qu'il s'était rendu compte qu'il n'y avait pas de passage juridique.
Alors, je suis pas d'accord. Ils ont arrêté parce qu'ils n'avaient pas les rapports officiels que nous avons aujourd'hui. Mmh. Encore une fois, vous avez, par exemple, un rapport du Conseil de la Cour des comptes qui explique que lorsque les travaux en 2015 ont été demandés aux sociétés autoroutes pour 3 milliards, on a allongé la durée des concessions, ce qui va leur apporter 15 milliards de plus. C'est un bon investissement.
Exactement. Mais c'est bon, on rappelle d'ailleurs qu'en 2006, donc quand ça a coûté 14,8, enfin ça a rapporté 14,8 milliards à l'État. Dès 2014, les actionnaires étaient déjà rentrés dans leur investissement puisqu'ils étaient déjà en train de se verser les dividendes. Donc vraiment, la chose la plus rentable qui existe, c'est les autoroutes. C'est-à-dire que ce bijou-là, qui a été créé par l'État, qui a été financé par l'impôt des Français...
Financé par les usagers depuis 50 ans.
Financé par l'impôt des Français et par la croissance depuis 50 ans, on l'a bradé à des compagnies qui se font des dividendes non-stop, parce que, excusez-moi, mais les Vinci et compagnie...
C'est
alors,
je
n'ai jamais vu le krach boursier de ces entreprises, c'est comme pour les pétroliers, ils continuent à engranger là, 30% chaque année, gling-glang, gling-glang. Et nous, on continue à payer... Mais ça ne dérange pas. Jamais Monsieur Jospin n'est venu expliquer pourquoi il en avait vendu 42%. Jamais Monsieur Villepin n'est mis devant ses responsabilités.
Ah non, il a encore dit,
mon Dieu.
Alors, qu'est-ce que vous en... Alors, Maître Legge va rester avec nous, voir ce qu'en dit votre consoeur, Maître Pégan, et Abel Joly, l'éducateur.
Moi, cher confrère, je vous soutiens parce que je me dis, il était temps. Je sais que votre cabinet est spécialisé justement dans les actions collectives. Et celle-ci, je la trouve totalement légitime parce que ça fait des années qu'on paye, sans jamais vraiment savoir si les tarifs sont justifiés. Donc des autoroutes qui sont rentabilisées, donc on a parlé de 76 milliards ou je sais même pas, ça devient astronomique, et on découvre quoi? Que finalement il y aurait potentiellement un trop-perçu. Donc merci confrère de faire cette action. On verra bien l'issue, mais en tout cas je ne peux que vous soutenir.
C'est le propre de toute action,
hein. Oui, c'est ça.
D'ailleurs c'est quoi le calendrier?
Alors le calendrier, c'est que l'inscription commence aujourd'hui jusqu'au 30 juin. Pendant l'été, nous, on travaille pour justement mettre les dossiers en état. Si on a quelques milliers de personnes, c'est du travail. Et après, on se lira le Conseil d'État normalement à l'automne, c'est-à-dire octobre-novembre.
Alors, qu'est-ce que vous répondez aux sociétés autoroutes qui disent que, par exemple, la hausse, il y a une hausse chaque année, et en 2025, la hausse a été inférieure à l'inflation. Donc, il n'y a pas d'abus sur les hausses du tarif de péage.
C'est pas le problème. Le problème, c'est l'indexation sur l'inflation. Dans le décret de 1995, il est prévu que les prix doivent augmenter à minimum de 70% de l'inflation.
75%, ouais.
Et c'est-à-dire que c'est illégal. Il n'y a pas d'indexation des salaires sur l'inflation. Ça serait trop beau pour tout le monde serait content.
Oui. Il
n'y a que pour eux qu'il existe cette indexation. Et ça, c'est complètement anormal. L'autre aspect que je voudrais évoquer, c'est que chaque fois que vous payez 100 euros de péage, vous avez 33 euros qui partent en dividendes de pur.
Ouais.
Est-ce normal qu'un service public administratif, comme les autoroutes, serve à financer à cette hauteur le privé? Si on compare avec LVMH ou Total, ils offrent pas 15% de retour sur investissement à leurs actionnaires. Là, on a 33% l'année dernière.
Exactement.
C'est n'importe
Sur 100 euros, il y a 21 euros de trop perçus.
Maître Leguevac, restez avec nous. On a Julie qui veut intervenir dans notre discussion. Bonjour, Julie.
Bonjour.
Bonjour. Vous vouliez intervenir. Pourquoi? Expliquez-nous.
Alors, j'ai qui travaille pour un concessionnaire d'autoroute. C'est un petit camion jaune, celui que vous voyez souvent.
Oui.
En fait, à chaque fois qu'il entend que la société d'autoroute se met plein les poches par rapport à l'augmentation du tarif, il est furibond. Parce que il est rentré dans la tête des gens que c'est la société d'autoroute qui a dit on va mettre plein le tarif. Sauf qu'il est clair et net à chaque fois qu'il entend ça, il est furibond tout simplement parce qu'il met ça. C'est l'État qui envoie un petit courrier en catimini, si je puis dire, aux concessions d'autoroute, disant les tarifs seront à appliquer à de temps. Donc quand vous payez votre autoroute à 5 euros, c'est l'État qui a décidé que ça sera 5 euros.
Pas vrai, c'est pas ça comme ça. Ce sont les sociétés d'autoroute qui proposent l'augmentation, qui est discutée en comité des usagers, qui reprennent notamment les entreprises de transport, et c'est l'État qui, à la fin, décide.
Oh, donc c'est bien l'État qui décide à la fin, alors.
C'est les sociétés d'autoroute qui d'abord. C'est
d'abord oui, mais l'État pourrait refuser.
Oui, mais ils n'ont pas
mais
le droit.
Mais non, parce que l'État est complice des sociétés d'autoroute, il leur a vendu.
Mais non, mais c'est pas ça, c'est que l'État.
C'est copain-copain.
Oui, mais d'accord, mais ces sociétés d'autoroute,
elles
payent des impôts aussi derrière. Ouais,
voilà, c'est ce que je te dis, non, c'est copain-copain.
Mais non, plus les sociétés d'autoroute gagnent d'argent, plus l'État récolte des impôts.
La diatribe anti-boîte privée de Barbara, elle est surréaliste.
Pas du tout.
Vinci, c'est une entreprise qui se porte bien, tant mieux, qui emploie des gens, tant mieux, qui fait des bénéfices, tant mieux, parce que elle paye des impôts sur ses bénéfices et qui investit à l'étranger puisque Vinci construit des autoroutes ailleurs. Tant mieux.
Mais
on peut vivre dans un monde soviétique.
Cher Olivier,
me faire croire que l'État gère mieux que les sociétés privées, c'est.
Je vais te dire une chose.
Personne.
Moi, je n'ai rien contre l'entreprise privée. Je pense que même l'entreprise privée fait bien mieux dans bien des domaines que l'entreprise publique.
Mais dans tous les domaines.
Mais quand il y a un service public administratif, comme les autoroutes, qui, tout comme un certain nombre d'autres services publics, et qu'on a décidé de transférer ces services publics à des autorités privées. Il y a des règles, et l'État accepte, non pas de se faire rouler dans la farine, mais l'État accepte d'être complice de gens qui vont faire de l'argent sur quelque chose qui est un service public.
Qu'une
entreprise privée se fasse de l'argent, c'est la base de la base, et je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais qu'elle se fasse de l'argent avec la complicité de l'État,
je comprends
pour
pas.
Plumer le contribuable
et l'usager,
c'est ce qu'il vient de dire l'avocat.
Pardon, Maître Leguevac, c'est ce qu'il veut essayer de démontrer avec le Conseil d'État.
À Paris, par exemple, les poubelles sont ramassées par deux boîtes. Il y a une boîte publique et une boîte privée. La moitié des arrondissements, c'est public, l'autre moitié, c'est privé. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Et bon, c'est étonnant.
Tu vois,
ça n'a pas changé avec
les arrondissements où c'est privé, c'est plus propre que dans l'arrondissement où c'est public. Et puis quand il y a des jours de grève, c'est marrant parce que dans le privé, ça continue de bosser et dans le public, effectivement, les poubelles sont pas ramassées.
Merci à Julie et merci Maître Leguevac d'avoir été avec nous.
Vas-y, moi ça me dérange pas.
On va suivre cette action.
On a besoin de policiers.
Normalement, le jugement.
Non, on a peut-être besoin de.
C'est pour quand la décision du Conseil d'État, Maître Leguevac,
de l'État sur l'autoroute, c'est pas une mission régalienne.
La date de décision, parce que ça peut prendre 6 à 24 mois. Donc on a le temps
d'avoir. Pour l'audiencement, oui.
Puis alors, comme vous avez une présidentielle qui va arriver, Maître Leguevac. À dans 10 ans. Merci d'avoir été.
Bon courage, confrère.
Allez, dans un instant, Robert Ménard, un sage, enfin. On verra.
Oui, pas sûr.
Oui, ça.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules.